et vous écoutez France Culture. La société a de nombreux moyens de se défendre, le vote, les barreaux et le revolver. Sergio Solima. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui se consacrera ce soir pour la dernière fois de la saison à l'actualité DVD avec trois parutions incontournables, Time and Time de Tsui Hark, désormais en collector chez Carlotta, La poursuite implacable de Sergio Solima paru chez M6 Vidéo et deux perles rouges, deux raretés somptueusement présentées par Artus Film, Cérémonie sanglante de l'espagnol Jorge Grau et Au service du diable de Jean Brismé avec Daniel Emin Fork entre autres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre et bienvenue donc dans notre dernière émission cinéma de la saison. Et nous avons mis les petits plats dans les grands avec donc trois très belles parutions, Tsui Hark, Solima et puis Artus Film, dont on ne dira jamais assez à quel point leurs parutions sont toujours extrêmement percutantes. Je suis bien sûr avec Christophe Beer.
Bonjour François.
Comment va Christophe Beer?
Très bien.
Quelle est l'actualité de Christophe Beer?
L'actualité, c'est d'être parmi vous.
Ah oui, c'est une très bonne actualité.
Oui, une actualité à Angoulême. Il y a une exposition mode et bande dessinée qui est très intéressante et on m'avait sollicité pour un texte sur l'érotisme, la mode et la bande dessinée. Texte qui se retrouve sur le site de 9e Art. Donc voilà mon actualité.
Très belle actualité. Et vous êtes arrivé nanti d'un cadeau pour les membres de l'équipe. Jess Franco, les mémoires de l'oncle Jess.
Ah oui, aux éditions Serious Publishing, traduit, annoté, commenté, enrichi par Edgar Balzer, dont on avait déjà souligné le travail formidable pour une traduction d'un livre sur Mario Bava.
Donc, là, il s'agit. Forcément, avec voilà. Une rétrospective à la Cinémathèque.
Oui, et là il s'agit non pas d'un travail de critique, mais des mémoires de Jess Franco qui était sorti en 1996, inédite en anglais et a fortiori en français. Donc c'est vraiment une grande première et pour les amateurs de Franco, c'est un livre qui, à mon avis, va faire date, qui est passionnant parce que ça n'est pas c'est le Franco intime que nous découvrons. Pas le cinéaste, on ne va pas avoir 36 000 anecdotes sur sa filmographie pléthorique, mais c'est l'homme le au plus intime qui est au cœur de ce livre.
On en reparlera bien évidemment dans Mauvais Genre. Bonsoir Monsieur Rouillet.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Monsieur Rouillet qui fut à Cannes, qu'est-ce qu'il a vu de beau à Cannes?
On voit plein de choses parce que ça a été vraiment un très très bon cru. Donc là évidemment on savoure cette Palme d'Or. Qui est vraiment un film très brillant, très réussi. Alors évidemment pour Bong Joon-ho qu'on a beaucoup défendu à ce micro
depuis
là.
Depuis toujours. Transpersonnel, Memories of Murder.
Et puis surtout Memories of Murder, The Host, Mother. Voilà, enfin, je veux dire des films vraiment d'une importance très très grande. Et là il est au sommet de sa carrière. Et puis c'est formidable. On le sait maintenant, le film est un succès. C'est-à-dire que à Cannes, c'était très beau de voir l'unanimité critique et professionnelle qui se faisait. Et d'ailleurs. Il a insisté, notre président du jury, Naritu, en disant que c'était le seul prix qu'il avait donné à l'unanimité de son jury, alors qu'il y avait des personnalités vraiment très, très diverses dans son jury. Et maintenant, le public adore le film. Et ça, c'est extraordinaire. Déjà, ça fait très longtemps qu'une Palme d'Or n'avait pas eu cet aval du public à ce point, même si Une Affaire de Famille avait bien marché, Une Histoire de Famille l'an dernier. Mais là, je pense qu'on est parti pour dépasser le million. Et ça fait plaisir quand c'est un film aussi complexe, aussi riche et aussi proche du cinéma de genre. Parce que ce qui est très intéressant, on l'a beaucoup dit, Cannes, cette année, ça a été la consécration, non pas tant d'un cinéma de genre, mais de l'abolition de la frontière entre le genre et un cinéma d'auteur, y compris dans des entreprises comme par exemple le film de Mati Diop, Atlantique, qui a eu le grand prix du jury, qui est un film sur la condition de la femme en Afrique, sur les migrants, et qui finalement se tourne vers Jacques Tourneur pour faire intervenir les fantômes et cette manière obsessionnelle de filmer l'océan, comme si de l'océan allait émerger des spectres qui allaient interroger notre quotidien le plus réaliste qui soit. Et du coup, si on prend toutes les sections, on s'aperçoit qu'il y avait énormément de choses. Actuellement, par exemple, cette semaine, Il y a un film qui est à la quinzaine, qui est le film de Bertrand Bonello, Zombie Child, très intéressant, qui revient aux origines du zombie haïtien et qui met ça en parallèle avec le teen movie, quoi. Des petites, des
demoiselles de la Légion d'honneur, Gauze Vaudou.
Voilà. C'est très, très intéressant de voir comment il a fait deux tournages, vraiment deux portions de film, et comment, c'est le cinéma pur, comment en les juxtaposant, les deux parties finissent par infuser. La semaine prochaine, on pourra voir le film de Quentin Dupieux, Le Dain, avec Jean Dujardin. Moi, je trouve que c'est le meilleur film de Quentin Dupieux parce qu'il refuse la béquille du dispositif. Dans tous ses films, à Quentin Dupieux, il y avait souvent un dispositif. Alors, je trouvais ça très séduisant, mais au bout d'un moment, peut-être... Alors que là, il se permet d'aller au-delà de ça. Et du coup, c'est son film le plus fou et le film le plus, peut-être, sur la folie. Et il va très très loin. J'ai vu aussi un très 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 bon film d'animation à la semaine de la critique qui sortira au mois de novembre qui s'appelle J'ai perdu mon corps d'après le roman de Guillaume Laurent et c'est quelque chose dont on parlera aussi beaucoup. Donc c'est vraiment ces deux semaines, on a été vraiment dans un cinéma vraiment très abrasif. Et puis on a quand même vu aussi sur grand écran les deux épisodes de la série de Nicolas Winding Refn qui sont à partir de ce week-end. Au programme sur Amazon Prime, hein, sur il y a que là qu'on va pouvoir les voir. Il y a pas encore prévu de DVD, de Blu-ray, donc il faut passer par cette plateforme pour les voir. Mais c'est extraordinaire. C'est une série de 13 heures qu'il a conçue en fait comme un film entier. En faisant des coupes, certains épisodes sont indépendants les uns des autres. C'est comme ça qu'à Cannes, on a pu voir les épisodes 4 et 5. Mais je veux dire, c'est par exemple Darius Kondji qui a éclairé 6 des 10. Donc quand on regarde les films, on n'a pas du tout l'impression de voir une série. On voit vraiment un film de Nicolas Winding Refn avec ses longues plages d'attente, de silence, tout d'un coup la violence qui va zébrer l'écran, cette sexualité extraordinairement glauque, et puis cette volonté de quête mystique qui embrume l'action et les personnages. Non, il faut vraiment aller voir ça, ça s'appelle « Too Old to Die Young ».
Merci Philippe, voilà autant de titres retenus et de spectacles futurs. Une demoiselle de la Légion d'honneur hantée par le vaudou, cette maison. Je pense à vous quand on me dit ça.
Ah, ça peut absolument pas être moi. Ni d'un côté ni de l'autre. Ce sont pas mes racines.
En attendant que vous soyez nommé à la chaire de mauvais genre de l'école de la Légion d'honneur, vous allez ouvrir avec nous l'encyclopédie du même nom et pour y retrouver quelqu'un cher à notre cœur.
Oui, pour y retrouver quelqu'un qui s'appelle Laurent Benaïm.
Moi, je suis vraiment obsédé par la sexualité et ça a un effet hypnotique sur moi. C'est-à-dire que je regarde une image érotique, je suis interdit. Et j'espère que quand j'en fabrique et que je les montre aux gens, j'espère qu'ils ont un choc émotionnel. La sexualité, c'est un truc qui est monumental et fabuleux, qu'il y en a partout, tout le temps. Et que ça dirige énormément de nos actes, ça conditionne énormément nos vies. C'est par la réflexion et le cheminement que je me suis engagé sur cette route, quoi, sur ce chemin. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre sujet, surtout. Quelle est la chose qui est plus impressionnante qu'une vision érotique ? C'est-à-dire que ça peut donner le frisson, ça peut donner... On peut avoir peur, on peut être excité. Il y a une foule d'émotions qui peut arriver par la percussion d'une image érotique. Et j'essaye de fabriquer des émotions. C'est le but du jeu, quoi. Et donc, voilà, c'est simplement... Pour moi, ça s'est apparu comme une évidence.
Autant qu'il s'en souvienne, Laurent Benaïm a toujours aimé les images érotiques. Enfant, il passait des heures dans la bibliothèque familiale à traquer dans les livres d'art de son père, des corps nus. Alors, une fois devenu grand, quand il se met à la photographie, c'est pour prendre en photo des corps nus. Au début, ce sont des femmes en solo, puis un jour, un couple débarque, duo, trio, quatuor, gangbang, partouze. Laurent Benaïm photographie tous les jeux sexuels possibles en gardant un sens de l'esthétisme très fort, accentué par la technique photographique qu'il utilise, la gomme bichromaté, un procédé inventé au milieu du 19e siècle qui, loin d'adoucir les visions érotiques qu'il nous offre, les théâtralise.
Julia, une copine, me dit « Est-ce que ça t'intéresse de faire une femme enceinte coquine ?» Et j'ai dit « Oui, pourquoi pas, allons-y. » Puis j'avais déjà travaillé avec elle, je la connaissais, mais je la connaissais pas tant que ça, finalement. Et elle arrivait avec un gars qui est insoumis, qui est... qui est assez connu, quoi, qui est vraiment un soumis parisien, voilà. Et elle l'a déglingué, mais c'était... Parce que moi, je m'attendais, une femme enceinte coquine, je ne m'attendais pas à qu'elle fasse une séance de domination, je ne m'attendais à rien, on n'avait pas discuté avant. Et elle arrivait avec ce gars, et elle l'a, mais... défoncé au gant de ceinture avec un calibre mais gigantesque. Elle lui a pissé dessus, mais avec son gros ventre de femme enceinte, etc., comme on peut voir sur la photo. Et c'était, il y en a qu'une de celles-là. Bon. Et c'était très drôle. Et c'était très drôle parce qu'il y avait ce contraste entre toute l'iconographie de femme enceinte, super douce, ouh, j'ai un gros ventre, machin, je suis contente, et le côté ultra... brutale qu'elle avait avec ce garçon qui adore être brutalisé, évidemment. Et c'était vraiment très très drôle parce que ce qui était drôle, c'était ma surprise, c'est-à-dire que je m'attendais pas du tout à ça, et elle s'est acharnée sur ce garçon.
Et donc là, sur la photo, qu'est-ce qu'on voit exactement?
Sur la photo, elle est assise et elle lui pisse dessus, et il est à quatre pattes, elle lui pisse dessus, elle est assise sur une chaise. Et elle lui fait, mais c'est plus un petit pipi, c'est elle a un flot d'urine qui lui tombe dessus. Voilà, et c'était très drôle.
Et alors, en feuilletant le livre de Laurent Benaïm, sur qui tombe-t-on, page 88 ?
Mais qu'est-ce qu'on a ? Ah, Christophe Beer. Alors, Christophe Beer, il m'a été apporté. La première fois que je l'ai vu, c'est parce qu'on a un ami en commun, c'est Dominique Format. Et donc, il est venu avec une domina. Et on a fait une séance de domination avec Christophe Beer, qui était assez drôle, où il était aussi lui un peu en mode, un peu en chien, attaché, petit collier, à quatre pattes, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'il est quand même, c'est un gabarit, Christophe Beer, quand même un beau bébé, quoi. Et la fille était toute petite, toute petite, toute maigre, quoi, tout petit format. Et c'est très drôle. Déjà, le contraste des deux volumes était intéressant au niveau photo. Et là aussi, ça a été une séance de domination. Et celle-là, elle y est dans le bouquin.
Donc, on va appeler Christophe Beer beau bébé maintenant.
Beau bébé, un beau nous bébé. A été apporté.
Oui, c'est drôle.
Par une cigogne.
Il ne m'avait jamais parlé comme ça.
C'est qu'il ne vous parlait pas, il parlait à moi de vous.
Oui, oui. Mais c'est une des caractéristiques de Laurent, de ne pas être extrêmement bavard quand on va le voir pour être pris en photo. Il se met un peu en retrait. Il est comme... Il a beaucoup travaillé pour le National Geographic aussi. Ça n'est pas innocent. Il est là en retrait comme un photographe qui va essayer de capturer quelque chose sans forcément qu'il impose tout un cérémonial ou des idées. On parle un petit peu. Effectivement, je me souviens qu'on avait un peu discuté de ce que nous allions faire, mais ensuite, il ne dirige pas, contrairement à d'autres photographes. Qui dirige les modèles, lui, il laisse faire, il nous donne en fait l'occasion de nous exprimer, et il photographie. Pas forcément d'ailleurs du mitraillage, mais il est juste là pour saisir des instants qui peuvent être surprenants. Et d'ailleurs, il se surprend lui-même, comme il l'a dit au tout début de son intervention, avec cette grosse dame enceinte. Il a lui-même été estomaqué parce qu'elle lui proposait.
On peut peut-être rappeler alors
rappelons, oui,
que
oui.
Le livre du photographe Laurent Benaïm, donc livre éponyme du même nom, est paru chez Taschen. Donc c'est une édition faite par Diane Hanson. Et puis pour retrouver surtout toute la palette complète des photographies de Laurent Benaïm, un conseil, rendez-vous sur son site internet www.laurentbenaïm.fr. Et puis dernière petite remarque au sujet des fesses, donc pour les amateurs de fesses, une autre proposition, c'est la 6e édition du Festival du film de fesses qui se tiendra du 27 au 30 juin à Paris, donc essentiellement au Reflet Médicis et à la Filmothèque, mais aussi à Montreuil. Donc un certain nombre de films qui causeront donc des fesses, Spermula par exemple, La fille de Dracula, Le corps et le fouet, entre autres.
Immense film,
un vache en bâton. Il y a une carte blanche à nos amis Caté Forzani.
Oui. À l'occasion du festival du film de fesses.
Ouais. Ouais, il faudra suivre ça.
Donc du 27 au 30 juin.
Eh bien, merci Céline et merci Christophe Beer pour cet hommage à Laurent Benaïm. On va maintenant changer d'univers. On va se déplacer dans la direction de Hong Kong avec Tsui Hark et donc son chef-d'œuvre de 2000, Time on Tide. Time and Time de Tsui Hark, donc en méga collecteur, comme on dit maintenant, mon cher Philippe Rouillet, chez Carlotta.
Cette collection très, très jolie de boîtes, à l'intérieur de laquelle il y a le présentoir DVD Blu-ray, et puis des objets, des reproductions d'affiches, des facsimilés de dossiers de presse, des textes, ce qui n'empêche pas, sur cette édition, des bonus vidéo aussi très intéressants pour essayer de comprendre d'où vient Tsui Hark.
Il y a même un petit livret avec un extrait du livre donc, de la nuque qui est paru chez nos amis de Rouge Profond.
Voilà.
Et puis ensuite, également, un entretien avec Tsui Hark. Donc, il y a vraiment un petit livret qui permet de cadrer le personnage.
Voilà, l'entretien avec Tsui Hark, qui vient du cinéphage, et donc il est antérieur au film. Mais sur le film, ils ont racheté le commentaire audio. Je dis acheté parce que vous savez, très souvent dans les éditions, on dit « Ah, bah, y avait un commentaire audio sur le Zone 1 et tout ça. » Oui, bah, je veux dire, tout se paye. Et il faut le sous-titrer. Et Carlotta a fait ça très bien. Et ajoutons que c'est la première édition Blu-ray de Time and Tide, qui est un film vraiment très très fort, très très étonnant, qui a peut-être pas eu la portée qu'on espérait quand il est sorti en 2000. On le voit bien, Tsui Hark revient de sa période américaine.
Justement, là, il faut un peu cadrer. Voilà. D'abord, Tsui Hark, on le connaît à mauvais genre, il fait partie de l'ADN. Je veux dire, voilà,
une sorte de parrain du cinéma de
Hong
Kong.
Et là, il y a une période hollywoodienne.
Voilà, il y a une période hollywoodienne à la fin des années 90 avec deux Van Damme. Et voilà, il lui est arrivé ce qui arrive à peu ou prou à tous les cinéastes de Hong Kong. Enfin, on pense évidemment John à John Woo, qui se sont coltinés avec les studios hollywoodiens. C'est-à-dire qu'il y a une telle différence de tournage à Hong Kong où finalement les heures de tournage sont élastiques, où vous pouvez arriver sur le plateau et décider de tout changer, y compris une séquence de poursuite que tout le monde va se mettre en quatre. Je veux dire, aux États-Unis, tout doit être storyboardé, signé à l'avance. Et si vous voulez changer un plan, ça
faut
devient
l'accord de la maison mère.
L'accord de la maison mère, et ça devient, alors évidemment, tous ces cinéastes de Hong Kong se sont retrouvés corsetés. En plus, il y avait la personnalité de Van Damme à gérer, qui n'était pas forcément facile. Et puis tous les impératifs du cinéma de studio. Et on voit bien comment, revenant à Hong Kong, alors le film est très particulier parce que d'un côté, Tsui Hark se dit je reviens à Hong Kong et je vais montrer que je suis le patron et il me faut un grand succès populaire. Et en même temps, il dit, je vais envoyer les soutiens-gorge par-dessus les moulins, en quelque sorte. Et je vais faire une œuvre complètement, complètement personnelle. Donc, on a un film qui raconte une histoire qui est assez banale. C'est-à-dire que on a deux types qui vont sympathiser alors qu'ils sont gardes du corps, et puis ils vont travailler ensemble, et puis la réalité des faits va faire qu'ils vont se retrouver dans deux camps ennemis. Donc, je veux dire, cette histoire-là, même si on vous la sert avec ils ont chacun leur petite copine qui est enceinte et tout ça, cette histoire-là, John Woo en a fait des tas de films. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Tsui Hark se moque un peu de cette histoire pour proposer un film d'action expérimental. Comment chaque séquence... d'une part, il s'offre des décors réels incroyables.
Alors, c'est tourné donc à Hong Kong.
C'est tourné
en 1999.
Voilà.
C'est quand même intéressant puisque c'est
deux
l'année.
Ans après la rétrocession.
Voilà. C'est quand même la période de la rétrocession. Donc, toute cette espèce d'effervescence, de violence contenue, de baroud d'honneur du cinéma de Hong Kong avant, évidemment, la réintégration dans l'Empire chinois, si j'ose dire. C'est ce moment-là. Donc là, la violence, elle est au cœur de la question.
Oui, parce que rien n'est encore réglé. Et du coup, il en prend profite. Ce qui est fou, c'est qu'il fait ce film comme si ça allait être le dernier.
Voilà.
Et donc, il repère tous les lieux de la ville dans lesquels il n'avait jamais tourné, où il rêvait de tourner, un marché, un hôpital, une zone surtout de sorte de HLM, enfin de tour complètement dingo, où il va faire des poursuites mais extraordinaires. Donc le type des cascades, évidemment, c'est des cascades à la hongkongaise avec des câbles qui n'apparaissent pas. Mais quand on voit le film, on est sidéré. Et d'autant qu'il fait cascader la caméra aussi, avec cette idée qu'il faut toujours mettre la caméra dans des angles les plus incroyables pour donner, en quelque sorte, un regard inédit. Donc les poursuites sont quelque chose de tout à fait fou. Et la deuxième heure, notamment, est nourrie de deux moments très forts comme ça, de deux moments d'action pure qui sont un pur ravissement.
Voilà un extrait de Time and Tide de Tsuya, Christophe Beer.
Je rejoins Philippe sur le côté spectaculaire du film. Je ne suis pas un grand connaisseur du cinéma hongkongais. C'est un peu un œil de novice. Et là, j'ai vraiment été époustouflé, notamment cette scène d'immeuble dans un quartier pauvre. C'est vraiment... vraiment bluffant, c'est incroyable. Mais j'ai découvert à la lecture du fascicule une remarque du monteur qui expliquait que le film à l'origine faisait 2h40.
Oui, il a plus, fallu comme souvent, enfin, oui, je veux oui, dire, les versions 1 et on taille dedans.
Bien sûr, mais le monteur expliquait quand même ce que il a coupé des choses et certainement pense-t-il que ça pouvait nuire à la compréhension du film. Moi qui ne suis pas un grand amateur, un grand spécialiste du cinéma de Hong Kong, c'est quelque chose que j'ai ressenti. À un moment donné, je me perds un peu dans le film. Mais je me raccroche à toutes ces scènes d'action, à cette espèce d'énergie folle. Finalement, c'est ça qui m'a vraiment intéressé, plus que les intrigues, parce que je perd des pieds parfois. Alors je ne sais pas si c'est une volonté.
Mais je pense que c'est justement que c'est volontaire, que Tsuyark, oui, en fait, ça vise que ces intrigues ne sont pas si folles que ça, et que c'est au contraire, il faut mettre en scène l'action, la vitalité, et que c'est de ça que va naître finalement, parce que alors qu'on est dans cette période d'angoisse pour Hong Kong, c'est un film qui se veut optimiste. C'est un film qui se veut sur le recommencement, c'est-à-dire que toute fin est un nouveau commencement. Voilà en gros ce que dit le film. Un film qui commence par la genèse, et vous y avez été sensible,
alors, oui,
j'imagine,
moi,
François.
J'ai même toute une théorie, parce que ce film a une trajectoire biblique dont la première partie génésiaque, enfin la première concernant la genèse, est explicite, puisqu'il voulait montrer que c'était un véritable départ, donc il y a une sorte de parodie du récit
jour,
de la genèse,
jour, etc.
D'une certaine acclimatée à l'univers du
million
Hong Kong.
Qui est fait la voix,
et c'est lui qui fait
la voix. C'est Tsuyark, la voix de Dieu.
Mais la fin n'est pas est également totalement biblique, voire même apocalyptique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, que voit-on ? On voit une femme enceinte qui accouche pendant un gunfight. Et là, pour ne pas penser à la scène de l'Apocalypse où la femme enceinte accouche face au dragon qui menace son enfant et qu'on est contraint de l'exfiltrer de manière à ce que son enfant soit préservé, ce qui se passe exactement dans la scène, on a d'une certaine manière un film biblique qui commence par la Genèse et finit par l'Apocalypse. Et entre les deux, je dirais que là, c'est vraiment le chaos le plus complet. Et les manques du récit, le remontage ou le démontage du film vont dans le sens du chaos. C'est très très compliqué à saisir, à articuler, et je crois que c'est effectivement totalement volontaire, ce qui fait que ce n'est plus un film que l'on suit sur le plan du récit, mais sur le plan de l'énergie.
Oui, c'est un film
sur le plan de l'action. Il emploie même l'expression de comique vérité. Il voulait faire des films, c'est cité dans le fascicule.
Comics au sens de bande dessinée, pas comique au sens de
non,
blague.
Ah oui, non, bien sûr, comics vérité, effectivement, on parlait de Jack Kirby la semaine dernière, c'est un peu ça. C'est un peu du cinéma qui est basé sur la surexposition de la violence et les points, les flingues et l'action beaucoup plus que sur la structuration d'une identité narrative.
Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il coupe même au sein des scènes d'action. C'est-à-dire qu'un contre-champ sur le résultat du tir qui lui semble inutile, il l'enlève. Il y a même des scènes d'action qui sont difficilement lisibles où ce qu'on va garder, c'est l'énergie. C'est-à-dire que c'est à aucun moment ça ressemble à ces bouillies de pixels qu'on voit dans les blockbusters américains aujourd'hui où on comprend rien de ce qui se passe, etc., où c'est que des effets numériques. Là, comme ce sont que des cascades, et il va oser ne pas mettre forcément sur un piédestal la cascade. Alors, je veux dire, il a eu des mots avec son équipe sur le tournage, parce que la tradition veut que quand un effort a été particulièrement remarquable, on le mette en valeur dans le film. Et lui, il dit non, c'est qu'un matériau. Et ce que je veux, c'est faire une sorte de diamant noir, quoi. Et le film, je trouve qu'il irradie dans la filmographie de Tsuyark de manière très particulière. Il a jamais refait quelque chose comme ça après, et il y avait rien qui lui ressemblait avant. Et ce film, je pense que ça, il a servi de matrice à tout un cinéma américain. Je pense que les Missions Impossibles, les trucs qu'on voit aujourd'hui qui nous plaisent, viennent de là. Faut pas oublier que le film sort un an après Matrix. Et qu'il y a quand même une sorte de défi, de réponse de l'Asie à ce que pouvaient faire les Wachowski, qui étaient déjà très audacieux et qui déjà faisaient appel à la Genèse. Il y avait déjà un aspect mystique, évidemment, dans Matrix, et il me semble que Time and Tide en est la réponse asiatique.
Matrix, il y a la question du dévoilement, il y a la question de la vérité, et ça, là aussi, on est dans l'apocalypse.
Et du prophète, voilà, absolument. Est-ce que Wan est l'élu ?
Matrix, c'est un film apocalyptique. Avec Time and Tide, on a, je dirais, l'alpha et l'oméga.
Christophe Beer. Il y a une énergie comique aussi, j'ai l'impression. Enfin, le film, par moments, me faisait rire, y compris dans les scènes
bien
de
sûr,
chaos,
bien
les
sûr.
Scènes de notamment comment on utilise le bébé pour retourner la situation. Hein. C'est il y a quelque chose parfois de l'énergie du slapstick chez Tsui-Hark.
Mais qui a toujours été dans le cinéma de Hong Kong, et là je trouve ça très intéressant de l'utiliser dans le film d'action. De même, il y a toutes les références qui sont très parodiques à Jonu, avec les colombes, avec, vous savez, ces gunfights où les personnages se braquent les uns les autres à deux, voire à trois. C'est des figures de style qui sont inhérentes au cinéma de Hong Kong, dont il fait son miel, mais là encore pour se moquer. Et je trouve que cet humour, en même temps que cette énergie, en fait, c'est comme si l'humour facilitait cette énergie.
Effectivement, là, on est d'abord, c'est d'abord et avant tout la volonté de faire pressentir et partager aux spectateurs l'énergie du chaos. Et c'est ça qui est quand même l'idée centrale et maîtresse de ce film de Tsui-Hark, donc qui sort en édition, magnifique édition collector, chez Carlotta, Time and Tide. On passe maintenant au second sujet de ce soir, dans Mauvais Genre, sur France Culture, Revolver, c'est-à-dire La Poursuite Implacable de Sergio Solima. Poursuite implacable, Revolver de Sergio Solima, une édition M6 vidéo, Philippe Rouillet.
Oui, alors on aime beaucoup plus le titre original, Revolver, que
Revolver,
La Poursuite implacable.
Qui dit tout, c'est d'ailleurs la phrase d'ouverture en est tirée.
C'est sous ce titre-là que le film est sorti en France, en 75, alors que le film date de 73. C'est donc un film de Sergio Solima. On a l'habitude de parler des trois Sergio, avec Léon et Corbucci, et souvent Solima, on le met en trois, et ça se discute, parce que On le voit, on a beaucoup parlé à Mauvais Genre de sa trilogie western, Colorado, Le Dernier Face-à-Face qui existe dans des
notre
émissions.
Musique, notre hymne voilà. est tiré d'un film de Sergio Saline.
Voilà, ces deux premiers existent dans des éditions somptueuses chez Wildside, et puis Saludo Sombre, qui existe aussi en DVD. Donc en fait, c'est sa trilogie avec Thomas Milan, et après il passe à autre chose, c'est La Cité de la Violence avec Charles Bronson, et puis Cette Poursuite Implacable avec Fabio Testi et Oliver Reed. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça commence, j'allais dire, dans la banalité. Oliver Reed joue un patron un directeur de prison.
Ancien commissaire.
Et il est avec une très jeune femme. Il vit avec une très jeune femme qui va être kidnappée. Et les ravisseurs réclament non pas de l'argent, mais la libération d'un prisonnier, qui est donc Fabio Testi. Et donc, quand il s'aperçoit que vraiment les gars rigolent pas, il va finir par faire évader le prisonnier pour essayer de regagner sa femme. Mais évidemment, l'idée, c'est de pas juste le faire évader, mais de le garder avec lui pour pouvoir évidemment procéder à l'échange. Et petit à petit, une amitié va se lier entre les deux hommes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le récit, en même temps, est tentaculaire. C'est-à-dire qu'on voit d'autres choses. On voit une espèce de chanteur à la mode.
Daniel Beretta.
Voilà, le rôle était prévu pour Johnny Hallyday.
On dirait un Christ de vitrail sulpicien, voilà. tout blond, tout frisé,
alors,
tout barbu.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, il paraît assez grotesque, mais il y a toute une vision de la contre-culture qui est là. C'est-à-dire que d'une part, il fait une chanson qui n'est pas si mauvaise que ça, une chanson écrite par Christophe, le chanteur, et qui porte en quelque sorte le message du film. Dès le générique, on a cette idée de l'amitié, mais lui, avec cette espèce de veste en daim, il préfigure du jardin et quand t'as du pieu, là, avec sa veste en daim et de franges, et il s'imagine machin, et il voudrait être sympathique, et le personnage est en fait extrêmement antipathique. Et on voit tout à fait les limites, on est en 73, de cette contre-culture, avec tous ces gens qui l'adorent, et finalement, il est récupéré. Il y a une scène de fête qui vire à la partouze, glaçante, hein, avec notamment un général. C'est vraiment l'idée du film. C'est-à-dire que le film...
Le film de 73.
Donne l'impression d'être une chose et il en est une autre derrière. Et il y a quand même aussi, dans ce récit tentaculaire, cette séquence qu'on voit qui apparemment n'est pas connectée du reste, qui est l'assassinat à Paris d'un industriel qui est un pétrolier. D'un industriel grec du pétrole. Et on se dit qu'évidemment, tout est lié. Et petit à petit, on va s'apercevoir que derrière son aspect film de genre, bien couillu, avec pourquoi pas l'autodéfense, on pense ça, puisque t'as piqué ma femme, moi je vais remonter et je vais zigouiller tout le monde, on s'aperçoit que c'est en fait beaucoup plus une sorte de miroir de la société politique des années 70, du désenchantement et surtout de l'ambiguïté des comportements, où chacun va être coincé dans un rôle qui lui est donné par la société et que du coup les notions de bien et de mal vont finalement être très mises à mal. Notre perception qu'on a des personnages est constamment glissante pendant le film, et ça je trouve que c'est une qualité immense.
Allez, libère Milo Ruiz. Et envoie-le-moi.
Rendez d'abord ma femme.
On ne l'a pas amenée, c'est trop risqué.
J'ai de mon côté pris encore plus de risques en faisant évader Milo Ruiz. J'ai été régulier, à vous de l'être. Je ne lâche pas Ruiz tant que je n'ai pas ma femme.
Si c'est ça, on n'a pas d'instructions.
Je vais vous en donner, moi, des instructions. Allez chercher ma femme. Et ramenez-la avant 1 heure, sinon je vous jure que demain, je remets votre copain au trou. Et ne cherchez surtout pas à me rouler. Je suis prêt à passer ce foutu pays au peigne fin, mais je vous aurai! Parole que je vous aurai!
Voilà un extrait de la VF de La Poursuite Implacable de Sergio Saline. Monsieur Beer.
Il y a la VO dans le.
Ah bah oui,
dans le coffret. Avec des sous-titres. Et là, je crois que la démonstration est faite de quelle version il faut regarder.
Ah oui, oui, oui.
Alors, monsieur Beer.
Mais oui, je pense à la trilogie des westerns et avec les personnages de Thomas Milian ou quand il est opposé à Lee Van Cleef dans Colorado, on avait encore une sorte d'espoir révolutionnaire où deux personnages que tout opposait, comme dans Revolver, finissaient par comprendre qu'ils avaient le même objectif, qu'ils avaient en face d'eux le même oppresseur. Il y a les années de plomb de l'Italie qui pèsent vraiment sur le film. Et il n'y a plus cette sorte de liesse qu'on avait, y compris dans l'interprétation d'un comédien comme Thomas Millian. Il y a d'ailleurs toujours une grande qualité dans les castings de Solima. Il ne fait plus appel à un comédien de cette effervescence, de cette exubérance. On a une sorte d'Oliver Reed très brut, crispé. Fabio Testi ne l'est pas moins d'ailleurs. Et on est là cette fois-ci dans un désenchantement total. Et c'est très intéressant de voir tout ce glissement du cinéma de Solima, du western, qui semblait encore être porteur de toutes sortes d'espoirs, au polar, au film policier italien.
Tout à fait, c'est vraiment ça. C'est ce qu'explique d'ailleurs très bien Jean-François Roger
dans le très
supplément.
Bon bonus, hein.
On passe de l'utopie à la dystopie. Oui. C'est-à-dire l'utopie politique qui voit s'affronter les élans révolutionnaires de la jeunesse et de la gauche européenne qui viennent se briser contre, effectivement, le conservatisme, les visions réactionnaires de la politique, voire les services secrets nationaux et internationaux. Mais il y avait encore une confrontation idéologique qui prenait dans les westerns un aspect flamboyant d'utopie. Et là, on arrive à autre chose, on arrive vraiment à la dystopie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus capacité même de rêver le changement. On doit s'affronter aux ruines, on doit s'affronter au délabrement, à la désintégration, une espèce de noirceur. Et là, je trouve effectivement que dans ce Solima dystopique, Oliver Reed est admirable, parce que quand on voit ce film, Oliver Reed, c'est pas franchement l'Italie du western auquel on pense. C'est le loup-garou de la Hammer, c'est les films de Ken Russell, c'est des certains thrillers anglais, c'est un personnage massif, effectivement, qui a toujours les diables, c'est l'homme qui brûle.
Ken Russell,
bon,
ouais.
On va parler de cérémonie sanglante, là, mais c'est l'homme qui brûle sur le bûcher des diables de Ken Russell. Donc il a avec lui une espèce de massivité, de contraction de l'homme qui résiste à la torture. Il faudra voir la date des diables, mais quand on voit Oliver Reed, on pense d'abord et avant tout à un homme qui se fait détruire les jambes avec les coins de l'Inquisition. Et il amène ça dans le film. Et effectivement, la manière dont tout s'organise autour de lui, avec un casting italien un peu étrange, et lui, il est au milieu, comme si une espèce de Jean Valjean, là, comme s'il essayait de soulever cette espèce d'énorme chose effondrée qu'est la société italienne, et finit par y arriver plus ou moins.
Et Fabio Testi est très intéressant aussi, parce que, notamment dans le pré-générique, il incarne encore cette espèce d'espoir, mais sauf que dans le pré-générique, il doit enterrer un ami, son complice, et en fait, c'est déjà le crépuscule. Quoi. C'est-à-dire que quand le film commence, c'est le crépuscule.
Oui,
et
c'est la fin d'une amitié.
Il faut le prendre vraiment au sens propre. Quoi. C'est aussi le crépuscule idéologique. Et pour reprendre la comparaison avec les westerns de Christophe, là, il y aura quand même compréhension. Mais ce qui est fort, c'est que malgré la compréhension, chacun est piégé dans son rôle. C'est-à-dire que on se comprend, mais on va quand même... ça ne va pas permettre le lien entre les êtres.
Dans les westerns, il y a tractation. C'est-à-dire que les personnages se nouent par un contrat. C'est l'or contre la poudre ou la liberté contre bon. Là, il y a compréhension, ce qu'il n'y a pas forcément dans les westerns, et cette compréhension ne sert à rien.
Il y a une réalité contre laquelle les personnages butent. Voilà. Alors qu'il y a d'autres films policiers italiens qui vont essayer de renouer avec une exubérance ou une lutte. Ce sont les films d'autodéfense où parfois il y a une telle énergie qu'elle peut devenir jouissive à nouveau.
C'est presque les films de la droite contre les films de la gauche.
Peut-être.
Parce que ce qui est très intéressant, c'est que l'assassinat politique, là évidemment on pense à Mattei. Et donc ça, tout d'un coup, ça amène le film du côté des films dossiers de Francesco Rosi qui étaient de cette même époque-là. Je veux dire, je crois que Mattei c'est aussi 73 ou dans ces eaux-là, ou 72. Donc, on est vraiment face au cinéma politique. C'est-à-dire que, sauf que quand on voit un film de Rosie, on est vraiment dans le cinéma politique donné en tant que tel. Alors que ce qui est très intéressant chez Solima, c'est qu'il passe par le biais du film policier. Et c'est vrai que tu as raison de parler de ces films d'autodéfense, parce qu'on y pense au début. Oui. On pense que Oliver Reed va être dans cet emploi, justement par son physique massif. Et c'est au fur et à mesure que le film se déploie. Moi, ce que j'aime, c'est des films comme ça où petit à petit, on prend la mesure de l'importance du film au fur et à mesure qu'on le regarde. Il ne se donne pas immédiatement comme un chef-d'œuvre. On part vraiment tranquillou avec le plaisir de la série B qui est de toute façon bien réelle et nous, on serait déjà très contents comme ça. Et petit à petit, le film prend une ampleur qui n'a là encore pas été vue, je pense, à l'époque. Et c'est vraiment notre rôle, nous critiques, j'allais dire, aujourd'hui, quand ces œuvres arrivent en DVD Blu-ray, de s'en saisir pour rappeler l'importance de ce continent de cinéma.
Et c'est intéressant de comparer d'ailleurs la prestation de Fabio Testi et celle de Thomas Milian. Cuccio, le péon délirant, alors là, avec l'arrière-plan de la commedia dell'arte, de l'improvisation, de cette espèce de gymnastique permanente que fait Thomas Milian. Et brusquement, on tombe sur Fabio Testi. Et le film commence. Alors, on sait que Cuccio est un fils de pute. On sait qu'il y a eu des malheurs dans sa jeunesse. On sait qu'il vient de nulle part. On sait que, bon, il a sûrement.
On sait qu'on l'aimera toujours
mais
de toute
c'est
façon.
Mais c'est pas un problème. Alors que Fabio Testi, il commence par enterrer son ami, avec lequel il a des liens peut-être amoureux, sous des cailloux au bord d'un fleuve, non loin d'un pylône électrique. On commence dans le désenchantement et une espèce de grisaille qui va pas quitter le film d'ailleurs.
Et pour à la fin dire, voilà, on a le choix entre le bulletin de vote et le revolver.
Voilà.
C'est assez glaçant.
Eh ben écoutez, vous pouvez mûrir votre vote, votre choix des barreaux et du revolver en regardant donc cette très belle édition de La Poursuite Implacable, Revolver, de Sergio Solima, qui nous est offerte, que vous pouvez acquérir, mais c'est grâce à M6 Vidéo.
D'une certaine manière, elle nous est offerte.
Troisième sujet ce soir de Mauvais Genre sur France Culture, donc Artus Film, qui continue à nous offrir, je maintiens mon mot malgré tout, de très très belles réalisations DVD et Blu-ray, des combos, et notamment avec cette collection donc Ciné des Terreurs, oui. Ce qui incline à penser qu'il serait plutôt question d'Espagne, avec Cérémonie Sanglante donc de Jorge Grau.
Oui, justement, Artus nous avait déjà régalé avec Christophe un précédent Dier. Film de Monsieur Grau, Le Massacre des Morts Vivants. Donc, Artus continue à explorer le cinéma fantastique espagnol. Alors, son âge d'or commence avec les années 60 et c'est surtout ce début des années 70. Cérémonie Sanglante date de 1972. Et il faut, en fait, bien voir que nous sommes donc dans la dictature du général Franco, qui est la plus longue d'Europe, qui a commencé en 1939. Le cinéma espagnol a toujours été sous le contrôle des autorités. Il n'est pas simple d'être cinéaste en Espagne.
Lisez les mémoires de Jess Franco. Et
oui,
donc,
on en parle abondamment
chez
dedans.
Serious Publishing.
Et le cinéma de genre, et même particulièrement le cinéma fantastique, qui était en définitive surtout destiné à l'exportation, a été une sorte d'appel d'air, de porte de sortie pour glisser un certain nombre d'attaques, d'oppositions, de réflexions plus acerbes sur l'Espagne. Et certains cinéastes se sont emparés du cinéma fantastique pour comme ça laisser passer un certain nombre d'idées. C'est le cas de Jorge Grau, parce que on pense à deux personnalités écrasantes, Jess Franco pour la réalisation et Paul Naschy comme comédien. Mais derrière ces deux personnalités, il y a eu un certain nombre de cinéastes qui venait du cinéma d'auteur. Il y a par exemple Narciso Ibáñez Serrador qui vient de mourir, effectivement, qui avait fait La Résidence.
Et Les Révoltés de l'an 2000.
Deux chefs-d'œuvre. 75. On a eu aussi un film extraordinaire sorti chez Artus, La mariée sanglante de Vicente Aranda, qui s'attaquait au machisme espagnol. C'était assez courageux. Et donc, nous avons comme ça un certain nombre de cinéastes auteurs qui se sont emparés du film de genre. Et Cérémonie sanglante a effectivement toutes les caractéristiques d'un film pour l'exportation. Le personnage central est une descendante de la comtesse Báthory, la marquise Báthory en l'occurrence. Nous sommes deux siècles après les événements de cette fameuse comtesse dite sanglante paraît-il, se baignait dans du sang de vierge. Pour garder sa jeunesse. C'est ce qui a donné naissance à un film de la Hammer, La comtesse Dracula. On peut même voir Les Lèvres Rouges avec Delphine Seyrig comme une autre approche de la comtesse Báthory. Et donc, on a là donc un film d'épouvante avec ce personnage central. Et Jorge Grau utilise également le motif du vampirisme. Et ce qui est très intéressant et subtil dans son approche, c'est qu'il n'essaye pas d'imposer un fantastique. C'est peut-être même un faux film d'épouvante, un faux film fantastique. On est toujours dans une ambiguïté. Mais pour jouer la carte du genre, il y a une esthétique qui fait vraiment très référence au film de la Hammer, c'est indéniable. Mais la grande qualité de cette cérémonie sanglante, avec ce personnage central qui va prendre conscience que le sang peut lui redonner l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté, c'est les glissements vers une critique politique. Et il y a un personnage dans le film qui a une réplique tout de même assez extraordinaire, qui dit lors d'un repas chez la Báthory que les véritables vampires ne vivent pas dans les cimetières. Les véritables vampires sont plutôt les spéculateurs et les usuriers. Et
une citation de Voltaire reprendra Karl Marx.
Et ils vivent dans des châteaux luxueux. Donc là, on est véritablement... c'est un des sujets du film. C'est le sujet sur la prédation. Il y a aussi le motif du faucon, l'oiseau prédateur. Et il y a toujours un prédateur plus haut que l'autre. Là, il y a une servante qui utilise le sang d'une colombe pour raffermir sa poitrine. Mais la même servante sera la victime de la Báthory, puisque son sang servira également à la Báthory.
Alors qu'elle n'est pas forcément vierge.
Oui, en plus. Et donc nous avons ces critiques comme ça qui sont par petites touches. Également les personnages de la haute société. Il y a un personnage de militaire qui est assez ventru et ce goinfrant. C'est par ces petites touches-là que Grau fait sa critique politique et sociale. Et puis, l'autre chose fascinante dans son film, c'est le personnage de la Báthory. Alors, qui est joué par Lucia Bosé, cette superbe comédienne qui avait été révélée par Antonioni, d'une beauté vraiment renversante. Le maquillage a un tout petit peu tiré les traits de son visage. Et Grau n'en fait pas un monstre de film d'épouvante. C'est même plutôt presque une victime. Elle a gardé de la réalité historique le côté autoritaire de la Báthory. C'est une femme qui est autoritaire, qui est une prédatrice, certes, mais il la nimbe, avec l'aide de sa comédienne, d'une sorte de solitude terrifiante. C'est une femme qui est aussi délaissée par son mari, qui préfère les faucons et la guerre, et guerroyer. Et donc, on a l'impression tout d'un coup que le film se resserre sur le thème central du pourrissement, qui peut être le pourrissement du régime politique de Franco aussi. Et tout le film devient extrêmement émouvant par le personnage de cette Báthory, qui est à la fois une autoritaire et forte, mais extrêmement faible et démunie face à la vieillesse.
Transfer the virtues of this unclean reptile.
Cunning, power, fascination.
Cunning, power, fascination.
And give them to this humble servant.
So be it.
Carl Zimmer, Count of Bathory, and husband to Elizabeth. Was he an inhuman vampire seeking blood to sustain his life? Or was Carl Zimmer a malevolent creature capable of loving only the victims of his own hand?
What do you want of me?
Philippe Rouillet sur cette comtesse Bathory de,
oui.
de
Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce que dit Christophe. C'était la même chose quand Carnet faisait Les Visiteurs du Soir et un certain nombre de films français sous l'occupation qui s'emparent du fantastique pour pouvoir dire autre chose que, évidemment, s'il donne une lecture politique du présent, il y aura censure. Donc, on peut se permettre autre chose. Ce qui est curieux dans le film, c'est qu'il utilise vraiment une esthétique Hammer. Et pour nous installer une ambiance fantastique et faire autre chose. C'est-à-dire que le film, moi, je le trouve toujours intéressant quand il s'évade de ce programme-là. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Christophe sur le personnage de Bathory, qui n'est pas un personnage de monstre, qui est plus complexe. Et le monstre serait plutôt son mari. Mais lui-même est traité de manière complexe, puisque à un moment donné, on ne sait même pas s'il est encore vivant ou s'il est mort. Enfin, je veux dire, alors que ça continue. Et puis surtout, il y a cet échappatoire du sexe, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est comme si le sexe permettait de s'évader de sa classe, parce que elle ne s'intéresse qu'à se faire rajeunir, mais c'est dans l'espoir de garder les faveurs sexuelles de son mari. Hein. Et quant à lui, ça l'intéresse d'être rabatteur parce qu'il va pouvoir se goinfrer de jeunes femmes. Ça va jusqu'au dispositif voyeuriste, c'est-à-dire que on commet les crimes dans le grenier et il y a tout un système d'évacuation du sang vers la baignoire qui est à l'étage en dessous.
Il y a véritablement un dispositif. Donc il y a d'ailleurs rituel,
une scène très belle de douche de sang. Littéralement de douche de sang, on est quand même avant qu'arrive au bal du diable.
Qui tombe du ciel. Alors moi là j'y vois aussi une sorte de citation biblique, la pluie de feu ou la pluie de sang, Sodome et Gomorre et l'Apocalypse. C'est-à-dire que cette idée de cette pluie qui tombe, qui à la fois régénère et maudit, puisque c'est quand même la pluie de la malédiction.
Mais en même temps, c'est le marquis qui envoie cette pluie. Et ce qui est très, très intéressant, c'est quand même cet œil par lequel s'écoule le sang, est aussi un œil à travers lequel on peut faire le voyeur. Et il y a constamment cette relation au voyeurisme dans le film. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que en bonus dans le film, on vous propose en scène coupée, qui sont en fait pas des scènes coupées, des scènes alternatives. Parce que c'est le fait, bon, et on a beaucoup vu ça avec Franco, les films de cette époque-là étaient tournés sous plusieurs versions selon les pays. Et y a une version plus déshabillée que celle qu'on voit là. Et donc, ils ont récupéré toutes les scènes déshabillées. Alors, évidemment, là, c'est loin d'être restauré, hein, ces scènes-là. On les voit à travers le filtre, j'imagine, d'une VHS un peu usée. Mais c'est tout à fait intéressant de voir, ça alimente ce côté sexuel, cet échappatoire sexuel du film.
Deuxième nouveauté, Artus, ce film ce soir dans Mauvais Genre, au service du diable.
I did have a daughter. I killed her.
You speak defiantly because your body is protected. But admit your thoughts are troubled. You desire Lisa.
Voilà un cadeau à ceux qui ont deviné ce qui se passait pendant les cris que l'on a entendus. Au service du diable, Monsieur Beer.
Oui, je je suis mal placé pour en parler parce que j'ai...
Bah au contraire, vous êtes très bien placé.
Oui, non, je ne veux pas avoir de conflit d'intérêt. J'ai écrit les 64 pages du fascicule...
Monument d'érudition.
Encarté. Bah, c'est un film que j'aime beaucoup... notamment par la présence du diable incarné par Daniel Émile Forck. Le casting est assez époustouflant.
Lucien Rimbourg, vieux du Récuir.
Oui, et le succube est la somptueuse Erika Blanc.
Erika Blanc, succube.
Donc,
ses grandes heures.
C'est un film moins personnel que Cérémonie sanglante, il faut l'avouer, mais c'est un très bon spectacle de ce type de cinéma européen. Là, il s'agit d'un film italo-belge, sur les lancées, une fois de plus, de la Hammer ou du cinéma italien des années 60. On essaie de faire un film d'épouvante à partir des 7 péchés capitaux.
Avec une Vierge de Nuremberg, très bien vue.
Il y a tous les éléments. Et le sexe est très présent, là, cette fois-ci, beaucoup plus que dans le film de Grau.
La mise en scène où, effectivement, le diable et sa succube tirent les ficelles d'une espèce de petite communauté qui s'est un peu formée de voyageurs dans un car, qui incarne chacun une forme de péché. Chacun incarne un péché capital, que ce soit la goinfrerie, le goût de l'or, la débauche.
Et chacun sera exécuté
Et la colère, et chacun sera exécuté en fonction de son péché. Non, ça évoque assez ce qu'auraient pu être d'autres films sur le même sujet. Et notamment, on imagine ce qu'aurait été un Nosferatu avec Émile Forck.
On peut penser au Dr. Fibes, où les meurtres sont ritualisés en fonction de la personnalité des victimes.
Philippe,
oui, mais évidemment, Dr. Fibes, où il y avait déjà le côté mystique, enfin, puisque c'était les plaies des, c'était sauf erreur, en fonction
les plaies, les plaies de l'Égypte.
Les plaies de l'Égypte, hein. Donc, il y a forcément, il faut remercier Artus pour toute cette exploration du cinéma fantastique, du cinéma bis.
Oui, les copies sont superbes.
Mais voilà, mais c'est ça, on a un travail de restauration qui est fou et qui nous amène à réhabiliter, alors on va pas réhabiliter ici Daniel Émile Forck, mais certes. C'est quand même très intéressant de voir des films qui étaient invisibles de sa filmographie.
Alors Daniel Émile Forck était très très content d'avoir fait ce film. Ça, il m'en avait parlé un jour. Il avait jubilé à jouer le rôle du diable. Il n'apparaît que quelques minutes au début, à la fin du film, mais c'était pour lui une grande joie, surtout de séduire le jeune séminariste à la fin du film, de lui proposer ce pacte faustien.
Le père Sorel, dont on voit à la fin, ma foi, qu'il cède peut-être aux avances de la succube. Merci messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir suivi Mauvais Gens. Je rappelle les sujets évoqués ce soir. Time and Tide de Tsui Hark, c'est chez Carlotta en édition collector. La poursuite implacable Revolver de Sergio Solima, c'est chez M6 Vidéo. Et puis deux redécouvertes magnifiques chez Artus Film, Cérémonie sanglante et Au service du diable. Et puis bientôt chez Sirius Publishing, Jess Franco, Les mémoires de l'oncle Jess. Toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Polleret, Delphine Baudet, Séam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnet, Philippe Rouillet, Christophe Biré, François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain en compagnie de Sylvie Granotier pour son dernier roman paru chez Albin Michel. Et d'ici là, bonne nuit à tous.
Who said so? They really don't. They don't know. A hard blow. Seduction. I'm paranoid. Darling, you don't know what you've done. Dream you made of all of them. Best kept, don't ever say it's the hard way. I want you to. It's just a guess I'm imagining. I don't know you. Don't want the memory. Don't ever say I'll never know. Salsa, come back, it's terrible. Forget about the boys, please. How I hate them. Oh, could you hurry? Starting to destroy me. I hope no. But everybody says another fairy tale blown away.